en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les travaux de notre nouvelle invitée pour cette émission en habit vert sont à la frontière entre la physique et les mathématiques. Elle a en effet créé de nouvelles méthodes mathématiques qui ont permis l'étude de plusieurs théories physiques, notamment la théorie de la relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein ou encore l'hydrodynamique relativiste. Et ces formules ont conduit à des progrès spectaculaires récents, notamment en astronomie, pour le calcul des ondes gravitationnelles émises lors de l'effondrement et de la fusion de trous noirs. Première femme à faire son entrée à l'Académie des sciences, c'était en 1979. Elle n'en fait pas qu'un pour autant. Toujours proche de la jeune génération, elle poursuit ses activités de publication en leur compagnie, par passion et sans faire de la science un combat. Yvonne Choquet-Bruat, bonjour.
Bonjour.
L'Académie des sciences, Madame Choquet-Bruat, c'est un peu une histoire de famille, si je puis me permettre, puisque votre père, Georges Bruat, était physicien et il avait une chaire à l'École normale supérieure.
Oui, il était directeur scientifique à l'École normale supérieure. Oui.
Alors, permettez-moi de dire que l'Académie des sciences est quand même un peu une histoire de famille, puisque votre frère, François Bruat, oui. mathématicien, appartenait oui. à cette Académie. Votre défunt mari, Gustave Choquet, appartenait aussi à l'Académie des sciences, vous-même, Madame Choquet-Bruat. Et puis aujourd'hui, votre fils, Daniel Choquet, biologiste. J'imagine, et ainsi nous pourrons démarrer sur l'ambiance familiale, j'imagine que c'était un climat très studieux qui régnait dans le cercle familial dans lequel vous avez grandi.
Je ne dirais pas studieux, mais je disais intéressé par les problèmes intellectuels, par les problèmes de la connaissance.
Alors, votre père est décédé assez prématurément, donc en 1945, il est mort en déportation pour avoir, je crois, refusé de donner le nom d'un élève résistant lorsqu'il était à l'ENS.
Précédemment, les élèves juifs, par exemple, leur fournissant des échappatoires. Donc, il avait mauvaise réputation auprès de la Gestapo.
Quel souvenir gardez-vous de cette période, justement,
de
cette
période de la guerre, au début, je ne me rendais pas compte. J'étais très protégée. Mes parents me protégeaient beaucoup. Trop, probablement.
Et vous étiez donc en pleine étude, justement. Vous étiez
oui,
dans le cadre des études.
Oui, puis en l'âge de la jeunesse, où beaucoup d'amis, eux, surtout, parce que dans ce temps-là, l'enseignement n'était pas mixte.
Et votre mère, qui était plutôt littéraire, est-ce qu'elle ne vous a pas influencé aussi?
Oui. Peut-être même plus que mon père, en fait. Et ma mère était une ancienne élève de l'École normale supérieure des jeunes filles. Et elle était professeure de philosophie. Puis elle avait plus de loisirs. Mon père était un homme très occupé. C'était un bon père, mais un homme très occupé. Donc finalement, j'ai peut-être eu plus de contacts intellectuels, disons, avec ma mère qui s'intéressait à beaucoup de choses, mais qui n'était pas une scientifique.
Et alors, je le disais, votre frère était mathématicien, vous êtes physicienne, mais à l'interface entre la physique et les mathématiques. Est-ce justement par opposition à votre frère que vous êtes plutôt orientée vers la physique?
Non, parce que mon frère était plus jeune que moi, il avait 5 ans de moins que moi, donc c'est pas lui qui m'a influencée, c'est peut-être moi qui l'ai un peu influencée, non pas pour faire les mathématiques, mais pour s'intéresser aussi à la physique.
Et votre père aussi, physicien, j'imagine
mon père
ça a joué.
Un physicien, un vrai, c'est-à-dire c'était un physicien expérimentateur qui a écrit toute une série de livres pour l'enseignement supérieur, dont le plus connu, enfin celui qui se rapprochait plus de ses propres spécialités, est encore réédité.
Et j'imagine donc que votre père vous a beaucoup influencé.
Oui, en un sens, oui. C'était un esprit très clair. Mais il portait plutôt son intérêt sur son fils. Il ne pensait pas que sa fille deviendrait une scientifique connue. Je pensais que je serais une bonne mère de famille, professeur de lycée, parce que quand même, il fallait gagner sa vie. Mais il n'imaginait pas, mais je crois qu'il en aurait été content.
On va avancer, si vous voulez bien, sur vos études. Donc, vous nous le disiez, étudiante à l'ENS, à Sèvres, reçue première de votre promotion à l'agrégation de mathématiques. J'imagine qu'à l'époque, il y avait assez peu de femmes, justement.
C'était une agrégation féminine, donc.
Oui. Et donc, première de votre promotion. C'est pour ça que je parlais d'une ambiance studieuse dans votre cercle familial. Mais pour vous, pas tellement studieux, en fait.
J'aimais bien travailler, je n'étais pas une grosse travailleuse. D'ailleurs, mon père avait dit à ma mère, « Tu sais, je suis inquiet pour Yvonne, quand je préparais le concours, l'entrée à Sèvres, elle ne travaille pas suffisamment. » Et ma mère m'avait dit, « Moi, tu fais ce que tu veux.
» Et tout s'est toujours déroulé avec facilité ou vous avez quand même rencontré des difficultés qui vous ont amené après à vraiment travailler très dur vos sujets?
Non, j'ai jamais eu l'impression de travailler dur.
Donc ça dégage une certaine facilité dans vos recherches?
Oui, oui. Puis en plus, les mathématiques, ça ne demande pas... Georges Darmois, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, m'a dit plus tard, « Moi, j'ai fait des mathématiques parce que j'étais paresseux. Votre père a fait de la physique parce que c'était un homme travailleur. » C'est vrai que mon père travaillait beaucoup.
Alors justement, en préparant cet entretien, vous me disiez que ce qui vous intéressait, c'était de comprendre le monde réel. Et ce monde réel, on le comprend à travers la physique seulement?
Non, on se pose toujours la question. D'ailleurs, plus on apprend de physique, plus on se rend compte que le monde est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait imaginer. Bien sûr, non. Mais enfin, bon, j'aime bien la physique et j'aime bien les mathématiques, parce que ce sont des sciences exactes. Je m'intéressais beaucoup à la philosophie étant étudiante, surtout ma mère était professeure de philosophie, mais je trouvais ça décevant parce qu'on n'arrivait jamais à comprendre, justement, à savoir. Et c'est toujours vrai. Mais la physique, ma foi, vous avez un modèle, c'est là, c'est là. C'est pas forcément le monde, mais au moins vous avez... construit quelque chose.
Donc effectivement, on l'a bien compris, vous êtes à l'interface entre les mathématiques et la physique, mais dans une époque où règne un groupe qui s'appelle le groupe Bourbaki, qui prônait une mathématique pure, était en opposition face
oui,
à la physique.
Oui, non, moi, je n'ai pas été Bourbaki.
Mais j'imagine que du coup, votre position devait être un peu délicate.
Je n'étais pas la seule, je veux dire, ni Lichnerowitz, ni Leray, qui sont mes maîtres, n'étaient Bourbaki.
Alors justement, parlons de ces trois hommes pour une femme, si vous me permettez cette expression, Madame Choquet-Bruyat. Oui. Effectivement, vous me disiez qu'il y avait trois personnes qui vous ont guidé dans
je
votre parcours.
Je ne peux pas dire que Georges Darmois m'a guidé. Il était déjà âgé et il ne travaillait plus beaucoup, lui. Mais c'était un ami de mon père et il m'a toujours été aimable à mon égard. Mais enfin, il ne m'a pas vraiment influencé ni aidé dans mon travail.
Alors justement, parlons de ces trois personnes un peu plus en détail. Georges Darmois, qui était aussi membre de l'Académie oui. des sciences, tiens, vous disiez qu'il
c'était
était...
C'était le patron de Lichnerowitz. Voilà.
Ouais. Donc, Lichnerowitz, dont on va parler dans quelques instants. Vous me disiez également, en préparant cette émission, qu'il avait été, en un certain sens, votre patron de thèse sur la relativité.
Oui, officiellement, c'était mon patron de thèse. Et c'est lui qui m'avait donné un premier sujet de thèse, qui n'était pas trop dur. Et puis, ce n'est pas cela que j'ai pris, finalement, comme sujet de thèse, parce que j'ai rencontré, dans des cours de troisième cycle, comme on dirait maintenant, Jean Leray, qui donnait un cours sans diplôme, qui était donc très peu suivi, et qui m'a suggéré un sujet plus intéressant, si vous voulez, plus difficile, mais plus intéressant. C'était une question ouverte sur l'existence de solutions, l'existence d'ondes gravitationnelles. Et Leray m'a donc dit, mais vous devriez chercher cela. Et Lichnerowitz m'a dit, oh, c'est un sujet trop difficile. Et puis finalement, avec des références qui m'ont été données, et puis des idées que j'ai eues, j'ai résolu le problème. Donc ça a été ça, ma thèse.
Vous avez résolu le problème de Cauchy?
Voilà. J'ai montré la propagation donc, de la gravitation avec la vitesse de la lumière.
Pour les équations d'Einstein.
Voilà.
Mais justement, Einstein, vous avez croisé sa route?
Ah non, parce que les équations d'Einstein, c'est les équations qui régissent la gravitation. Et personne ne doute. Enfin, il y a toujours des gens qui doutent de tout. Mais disons que c'est la théorie moderne de la gravitation acceptée par tous les scientifiques. La théorie de Newton n'en est qu'une approximation pour les cas de vitesse lente et de gravitation pas trop forte.
Votre nom est souvent rattaché à celui d'Einstein.
Oui, enfin, disons que c'est quand même la génération précédente, et puis d'autre part, ça ne se compare pas. Je ne me comparerai pas à Einstein.
Mais vous avez eu l'occasion de le rencontrer?
Oui, je l'ai rencontré à Princeton, en fait, à l'Institute for Advanced Study, où j'ai passé 2 ans après ma thèse.
À l'invitation de Jean Leray, peut-être, non?
À l'invitation de Jean Leray, qui m'a d'ailleurs présenté à Einstein, en disant que je travaillais sur la relativité générale, et aussi, d'ailleurs, il a dit que j'étais la fille donc, de Georges Bruat, qui était mort en déportation. Et donc, Einstein m'a fait entrer dans son bureau et m'a dit « Exposez-moi votre thèse ». Ce que je fis, en fait, c'était un homme pas du tout intimidant. Puis en plus, je ne suis pas être intimidé, ce n'est pas mon genre. Et donc, je lui ai exposé ma thèse et il a trouvé ça très intéressant. Parce que lui-même n'était pas un mathématicien, quoique sa théorie est une théorie mathématique assez complexe. Mais il s'intéressait, il aimait bien les démonstrations rigoureuses. Et après, il m'a dit, venez dans mon bureau quand vous voudrez. Pourtant, il ne fréquentait pas beaucoup les gens. Donc, j'y suis allée de temps en temps. Après, j'ai regretté de ne pas y être allée plus souvent. Mais en fait, les travaux qu'il faisait à l'époque ne m'intéressaient pas vraiment. Mais je le comprends mieux maintenant. Il cherchait une théorie unitaire. Et en fait, c'est ce que les physiciens ont poursuivi et poursuivent encore. Une théorie unitaire qui expliquerait tout. Mais la voie sur laquelle s'était engagé Einstein à l'époque n'était pas la bonne. Mais il aimait bien. Je le comprends bien maintenant parce qu'il aimait bien, au fond, faire des calculs, faire des mathématiques. Même si, au fond, il n'était pas sûr que sa voie soit la bonne.
Vous êtes resté 2 ans à Princeton.
Oui.
Et après, vous êtes revenu en France.
Oui, enfin, j'ai écourté un peu mon séjour parce qu'on m'a proposé un poste de professeur. Enfin, ça s'appelait mode de conférence à l'époque, à l'université de Marseille.
Vous êtes resté quelques années là-bas, à Marseille.
Oui, 5-6 ans, oui.
Entre-temps, vous recevez la médaille d'argent du CNRS, ce qui est déjà une belle récompense.
Oui, enfin, la concurrence était moins dure à l'époque.
Ah bon, vous trouvez ?
Oui, d'abord, quand j'ai été nommée à l'université de Marseille, nous étions 3 mathématiciens. Et maintenant, il y a 3 universités à Marseille et chacune en comprend, je ne sais pas combien, peut-être 50.
À chaque fois, quand on vous entend, Madame Choquet-Bruat, on a l'impression que vous êtes vraiment dans l'humilité la plus totale. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez une grande personne, que vous avez fait de travaux avec des applications concrètes, ou encore une fois, que vous recevez la médaille d'argent du CNRS, vous vous empressez de dire « Non, mais c'est pas grand-chose. » Comme pour le fait d'être reçue, vous êtes la première femme à entrer à l'Académie des sciences, vous me dites « Non, non, mais vous savez, finalement, c'est pas très important. » Ça fait partie de votre caractère, justement, que de...
Oui, mais il y a de la vérité, là. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir à me battre, vous voyez, dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, dans ma vie privée, j'ai eu des problèmes, comme tout le monde. Mais dans ma vie professionnelle, ça s'est fait tout seul. J'ai eu de la chance, disons.
Sans pour autant vouloir grossir les choses, il ressort comme une certaine humilité, quand même, de votre part.
Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, j'allais dire, je n'avais pas d'ambition. J'ai eu plus de succès que mon ambition. Enfin, je n'ai pas eu l'impression d'avoir à prouver quelque chose. Peut-être c'est l'avantage d'être une femme.
L'avantage d'être une femme, c'est de ne pas avoir à prouver quelque chose.
Oui.
Je pensais plutôt que ce serait l'inverse, justement, que ce serait plus difficile de montrer ce que l'on sait faire, de faire ses preuves. Ce n'est pas ce que vous ressentez.
Non, en fait, j'ai redoublé ma 7e. C'était ce qu'on appelle maintenant CM2. Il faut dire que j'étais très jeune. Donc, j'ai redoublé ma 7e. Mais à partir de là, franchement, mes études, j'ai toujours été première, toujours eu le prix d'excellence. Bon, j'avais des facilités, si vous voulez.
Alors, si vous voulez, revenons à ces 3 hommes. Hein. On a fait un petit écart, on s'est arrêté quelques instants au bord du chemin, on a croisé Einstein. Mais revenons donc à ces 3 hommes pour une femme. Donc, on a parlé de Georges Darmois, on a parlé de Jean Le Ray, on n'a pas encore beaucoup parlé d'André Lichnerowitz.
Lichnerowitz a été mon patron et la première personne qui m'a vraiment encouragée à faire de la recherche et à chercher à faire une thèse. J'en avais envie. J'avais envie de faire de la recherche, mais c'était pas tellement courant à l'époque pour les femmes.
C'était un personnage assez accessible ou au contraire
assez
fermé ?
Oui, c'était un homme très amical, qui savait vous encourager. Il savait encourager, dire c'est bien, c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Le reste, c'était un peu l'opposé. Il ne me disait pas que c'était pas bien, mais il disait oui, c'est pas mal, mais vous devriez faire plus général. Alors, par exemple, mon sujet de thèse, oui, c'est vrai, mais enfin, vous devriez chercher quelque chose de plus. Je crois que si Le Ray avait été mon patron de thèse, enfin, j'aurais peut-être fait une thèse, mais enfin, ça aurait été plus difficile. Tandis que Lichnerowitz, c'était très encourageant. Et puis lui-même était un excellent enseignant. Il a écrit lui-même un livre sur la relativité générale qui est vraiment limpide.
On était à Marseille, vous y passez quelques années. Entre-temps, donc, vous recevez la médaille d'argent du CNRS. Et puis arrive la période où vous devenez professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris.
Oui, et... qui ne s'appelait pas Pierre et Marie Curie d'ailleurs à l'époque, mais enfin oui, à l'université de Paris. Oui. Et là aussi, Lichnerowitz m'a bien aidé parce qu'il y a eu un professeur qui a pris sa retraite, là, qui s'appelait Monsieur Jeannet. Et Lichnerowitz m'a dit, mais vous devriez vous présenter à sa chaire. C'était encore des chaires à l'époque.
Il a fait campagne pour vous ?
Voilà, il a fait campagne pour moi. Le Ray aussi, mais Le Ray était déjà professeur au Collège de France. Mm-hmm. Donc, il n'était pas à l'université.
Et donc, vous êtes resté quand même quelques années, de 1960 à 1992.
Bah oui, j'ai pris ma retraite, oui.
Et après, vous avez pris votre retraite, vous êtes passé émérite. Et donc... Entre-temps, vous entrez à l'Académie des sciences, au début comme correspondant, puis membre, en 1979, et vous devenez donc la première femme à entrer à l'Académie des sciences.
Oui, mais c'était un plaisir, là, franchement.
C'était une surprise ou pas spécialement?
Oui et non, parce que Lichnerowitz m'avait dit, il y a quelques années, vous serez la première femme à l'Académie des sciences. Mais en fait, c'est surtout Le Ray qui a fait campagne pour moi, pour entrer à l'Académie.
Et d'être la première femme, justement, encore une fois, ça ne vous a pas forcément
J'avais l'habitude d'être la seule
d'être
femme.
La première, d'accord.
dans beaucoup d'endroits, donc ça ne m'a pas... Puis en plus, on faisait des visites à l'époque. Et vraiment, j'en ai gardé un bon souvenir, des visites.
Des visites, vous voulez dire de faire campagne, c'est-à-dire d'aller rencontrer les académiciens?
Voilà, ça se faisait, on allait voir les académiciens. En fait, ils étaient très heureux de parler d'eux, en général, donc...
Donc vous aviez un don pour les faire parler d'eux.
On n'avait pas besoin de donner tellement de détails sur leur... Mais non, c'était sympathique, c'était intéressant. Non, c'était bien, j'en ai gardé un bon souvenir, des visites faites à l'Académie, surtout qu'après tout, j'étais pas élue. Hein. Puis enfin, Le Ray me soutenait très bien, je pensais que je n'avais pas trop de soucis.
Cette émission s'appelle En habit vert, mais vous ne portez pas l'habit vert, c'est un choix.
Bien, c'est-à-dire, quand j'ai été élue, donc, il y avait Madame Yourcenar qui a été élue simultanément, disons, à l'Académie française. Et alors, elle s'était fait faire un habit noir. Elle avait une longue robe noire. D'ailleurs, mon mari, qui était entré à l'Académie peu de temps avant, d'ailleurs 3 ans avant, ne s'était pas fait faire un habit. C'était pas le genre de la famille, disons.
On peut penser que ce sera la même chose pour votre fils, Daniel Choquet, alors.
Mais en plus, à l'heure actuelle, c'est une fortune d'avoir à se faire un habit.
C'est un détail qui a son importance.
Ces messieurs, ils en empruntent souvent.
Mais ce n'est pas le cas pour les femmes.
Mais non, enfin ça viendra peut-être à la prochaine génération.
Je disais en introduction de cette émission, j'ai parlé rapidement de vos travaux et des applications, notamment pour donner des exemples à nos auditeurs. Il y a donc dans les applications de vos travaux, des applications pour l'astronomie, justement, dans le cadre des ondes gravitationnelles. J'aimerais que vous nous en parliez un peu, et que vous nous parliez notamment du projet Virgo, à partir duquel il a pu se construire, oui, grâce justement à vos travaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette partie-là?
Je remonterai peut-être dans le passé, oui, et parlerai de la première personne qui a cru aux ondes gravitationnelles et qui a monté un appareil pour les détecter, qui s'appelait le professeur Weber. Je le connaissais bien, c'était un ami, disons, et qui était très sympathique. Et donc, il a construit cet appareil qui était un gros cylindre de métal qui devait vibrer au passage d'ondes gravitationnelles. Et il en a même observé, dit-il, enfin, il a... Et ce qui m'a surpris, c'est que alors que la lumière, il y a des corps opaques, pour la gravitation, il n'y a pas de corps opaques. Or, il avait détecté ces ondes gravitationnelles avec un cycle de 24 heures, ce qui n'était pas raisonnable, puisque la Terre tourne, bien sûr, mais qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien par rapport à l'appareil, puisque les ondes gravitationnelles traversent tout. Et en effet, après, il les a trouvées avec le cycle de la durée voulue. Puis finalement, les autres physiciens, moi je ne suis pas expérimentatrice, ont analysé les résultats et ont dit que ce n'était pas possible. Vu la faiblesse des ondes gravitationnelles, elle ne pouvait pas être détectée par son appareil. Alors on a construit d'autres appareils sur le même principe, plus sensibles. Alors là, avec des analyses probablement plus... Mais peut-être, après tout, je ne sais pas, peut-être Weber, il avait un don particulier, hein, et il croyait, donc... Enfin, toujours est-il qu'on n'a jamais détecté les ondes gravitationnelles avec les cylindres, même en y faisant le vide, en les mettant des supports plus, etc. Les isolant mieux, disons. Mais enfin, on n'a pas détecté. Mais ensuite, on a construit d'autres appareils encore plus sensibles sur d'autres principes, auxquels je n'entrerai pas, car ce n'est pas ma spécialité. Mais il paraît que le dernier en date, on commence à en détecter, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment certain.
Oui, il y a
puisque maintenant, on veut en faire un dans l'espace.
Il y a le projet Virgo, qui est donc un projet franco-italien, et puis le projet LIGO, qui lui est un projet américain qui,
oui,
justement, devrait vérifier l'existence des ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein.
Mais personne n'en doute qu'elles existent,
oui,
les ondes gravitationnelles. Seulement, elles sont très faibles, très faibles. Et il suffit qu'il y ait un camion qui passe à quelques kilomètres pour que ça trouble la détection d'ondes gravitationnelles. Mais donc, il y a maintenant un projet dans l'espace. Donc là, ce sera vraiment bien isolé en principe. Donc, les expérimentateurs y croient.
Oui, pour éviter
là,
justement
le
bruit.
Détecter les ondes gravitationnelles. Et c'est très important parce que, justement, les ondes gravitationnelles traversent tout. Donc, elles pourront obtenir des renseignements sur l'univers d'une part, mais enfin même peut-être des choses plus d'intérêt immédiat. Mais le monde change tellement et devient tellement extraordinaire, c'est impossible de prévoir comment le monde sera, même dans un délai relativement court. Quand je pense combien le monde a changé depuis seulement 15 ans, avec l'Internet, tout le monde est en communication avec tout le monde à chaque instant. Donc il est impossible de prévoir ce que sera le monde et la Terre dans 20 ans.
Et justement, vous suivez ces évolutions et vous poursuivez vos activités, même si vous êtes émérite. Vous travaillez avec de jeunes collaborateurs et c'est important pour vous de garder justement, oui, et d'une part ces activités et d'autre part d'avoir le contact avec de nouvelles générations.
Oui, bien sûr, c'est très important.
Et j'imagine et que c'est vous qui leur apprenez des choses.
L'amitié a toujours tenu pour moi une grande place. Même dans la science, je me suis fait des relations dans le monde entier, ou presque, mais toujours par l'intermédiaire d'un grand scientifique, bien sûr, mais d'un ami. Je me suis fait un ami chinois, plusieurs amis américains. Malheureusement, mes amis commencent à s'éteindre. Donc je suis contente d'avoir un peu de relais avec les plus jeunes, quoique ce n'est pas la même chose.
Et j'imagine que c'est vous qui leur apprenez beaucoup de choses. Est-ce que eux aussi vous apprennent des choses, ces jeunes générations ?
Bien sûr, c'est très stimulant d'avoir contact avec la science en train de se faire. Oui.
Là, actuellement, par exemple, vous travaillez à une publication. Quelles sont vos recherches actuelles ?
Eh bien, pour l'instant, je fais deux choses. D'une part, je prépare ce livre qui me donne l'occasion de comprendre encore mieux en profondeur les problèmes et les résultats, avec le minimum, disons, d'hypothèses. Et souvent, il y avait des hypothèses superflues et on s'aperçoit qu'en fait, c'est plus simple qu'on ne croyait. Enfin, c'est plus général et plus simple. Et puis, d'autre part, quelques travaux personnels sur des sujets que je connais bien, où on apporte quelques améliorations. Mais ce n'est pas des découvertes fondamentales. Trop tard pour moi.
Et vous travaillez notamment avec d'autres académiciens, comme Thibaut Damour, par exemple, qui vous suggère des sujets,
oui,
ou en tout cas qui vous pose des questions et qui sont justement l'origine des sujets.
En fait, c'était une suggestion de Thibaut Damour, qui est un grand physicien et qui a le goût des mathématiques, ce que j'apprécie beaucoup, l'esprit logique. Donc, il travaille, lui, sur des choses, disons, la théorie des cordes, par exemple, qui est même au-delà de la théorie des cordes, en fait, de manière à obtenir ce que cherchait Einstein, c'est-à-dire un modèle général de tout l'univers, enfin, du moins, une partie, une peinture de la réalité qui soit plus générale, plus parlante. Donc, ça, c'est la théorie des cordes. Donc, l'univers a, pourquoi quatre dimensions ? Pourquoi trois dimensions d'espace ? Le temps, finalement, on n'en garde en général qu'un quand même. Le temps, c'est une donnée fondamentale. Quoique, comme dit Thibault, le temps n'existe pas. Parce que dans les théories tout à fait modernes, le temps n'est plus du tout ce que nous voyons, n'est pas ce que nous ressentons. Quoi pas, d'ailleurs. Point de vue philosophique, ça n'est pas du tout choquant. Bien que on a beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est que le monde. Mais je repense à ce livre de Jean d'Ormesson. Quelle chose étrange quand même que le monde. Mais plus on fait de physique, plus on se rend compte qu'en effet, c'est une chose bien étrange que le monde. Donc Thibaut Damour travaille, enfin il fait même des travaux originaux, personnels, très importants, sur ces théories universelles de la réalité. Et pour ça, première étape, disons, on passe à des dimensions plus grandes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait trois dimensions d'espace. C'est tel que nous le voyons, nous, avec nos yeux personnels. Donc, il y avait une question qui se posait, qui était celle de l'énergie fondamentale. L'énergie, c'est la chose fondamentale. Et il y avait des théorèmes qui étaient valables en dimension 3+1, donc, mais qui n'étaient pas démontrés. Il y avait des travaux, mais rien de vraiment solide sur la dimension plus élevée. Et comme moi, j'avais travaillé sur l'énergie en dimension 3+1, il m'a dit, mais il faut démontrer, vous, un théorème en dimension, vous pouvez, vous avez les outils. Bon, donc, mais quand on commence à chercher quelque chose, on est pris. Mais enfin, il m'a suivi, il lisait les premières versions, il m'a beaucoup encouragé. Donc ça, c'est ma dernière note au compte rendu.
Alors, justement, donc, vous parlez de recherche, à travers toutes ces années de recherche que vous poursuivez, d'ailleurs, Madame Choquet-Bruin, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de mieux comprendre le réel ou au contraire de moins le comprendre de
plus... C'est ça, c'est plutôt ça.
Plus
de comprendre
chercher...
que le réel, en fait, est inaccessible, qu'on en a des peintures, on a des images du réel. on raffine l'image, mais enfin, nos outils physiques et intellectuels ne nous permettent pas de saisir le réel, un réel. Quoi qu'il y a des physiciens qui le disent, mais enfin, ils se trompent.
Ah, voilà, si vous voulez écouter l'émission de Madame Choquet-Bruat, vous verrez que vous vous trompez. Vous parliez de votre livre qui paraîtra prochainement, qui est la version plus concise, on va dire,
oui.
Du premier édité en 2008, je crois, aux presses
2009,
universitaires.
Oui,
2009,
oui.
Aux presses universitaires d'Oxford. Donc le titre original, c'était General Relativity and the Einstein Equation.
Oui.
Et donc la version, on va dire, plus concise, plus accessible.
Oui, il n'y a pas plus concise. Oui, si, ça sera plus court. Mais enfin, ça sera surtout plus accessible à des étudiants qui n'ont pas forcément des connaissances mathématiques très approfondies, aussi approfondies que j'ai données dans le premier volume.
Et donc ce second livre s'intitule Basic General Relativity, Cosmology and Black Holes. Vous écrivez en anglais.
Oui.
C'est parce que votre éditeur est anglais ou c'est pour être
non,
lu du plus grand nombre ?
De toute façon, maintenant, les discussions scientifiques, c'est toujours en anglais. Même quand on est entre français, c'est les mots anglais qui viennent. Oui, on est habitué parce que c'est quand même international. J'ai un confrère qui est Laurent Lafort, qui est un mathématicien pur, mais un esprit très ouvert à la science. Et qui, par contre, insiste pour qu'on parle français.
Mais il est dans une discipline particulière où, pour les mathématiques,
ben,
justement...
C'est-à-dire, d'une part, c'est un très grand mathématicien,
oui.
De sorte que même s'il publie en français, les gens font l'effort pour le lire.
Tout à fait.
Et puis, ben, je lui dis, c'est bien, mais alors, avec un chinois, vous parlez quoi?
Et il a répondu?
Rien. Il est un homme intelligent, il sourit.
Yvonne Choquet-Bruat, on arrive au terme de notre émission. Quel regard portez-vous sur... la science et la physique en particulier aujourd'hui, puisque vous parliez d'une évolution très rapide en quelques années, justement, de notre compréhension, mais aussi de ce qui nous reste à comprendre. Quel regard portez-vous et comment voyez-vous l'avenir de la recherche dans ce domaine-là ?
Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prévoir ce qui se passera. C'est certain que la science devient beaucoup plus complexe, même la mécanique que j'ai enseignée, moi, pendant des années à l'université. Bien sûr, les choses élémentaires, ça a été fait. Tout devient plus complexe.
Donc, il y a encore beaucoup de travail pour les chercheurs à venir.
Beaucoup de travail. Beaucoup de chercheurs, mais beaucoup de travail.
Je vous remercie, Yvonne Choquet-Bruat, d'être venue nous voir.
Merci.
Et puis, j'espère à bientôt pour une prochaine émission, pourquoi pas, sur la publication de votre livre à venir. Merci à vous.